I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
€1,19, s'il te plaît.
On est mardi soir et je suis dans une épicerie solidaire avec des étudiants. Et là, les courses, c'est pour la semaine ?
Non, je vais les faire toutes les semaines régulièrement. C'est plutôt pour des trucs qui, eux, vont tenir longtemps et qui, justement, me permettent les mois où je ne peux pas racheter d'autres choses, de justement tenir. Je m'appelle Milia et je suis en L2 STAPS, en Université de Paris. Je reçois une aide alimentaire de 200 euros de chacun de mes parents. Bah, ça ne suffit pas puisque j'ai un loyer qui est à peu près 190 euros par mois, plus un pass Navigo annuel que je paye qui est environ de 40 euros. Et ça me laisse moins de 200 euros pour faire mes courses et pour vivre au moins. Il y a eu des mois comme ça où il y a la moitié du mois, j'ai plus d'argent. Et du coup, juste, je vis sur les réserves que j'ai faites. Et si jamais j'ai besoin vraiment, je peux demander à mes parents. Mais eux, c'est pas non plus une situation qui est incroyable. S'ils pouvaient me donner plus, ils me donneraient plus. Mais c'est pas forcément possible.
Tu te sens en précarité aujourd'hui ?
Ah oui, clairement oui. Hein, quand on a moins de 200 euros par mois pour vivre, oui, c'est clairement de la précarité. Et il n'y a pas place aux loisirs, il n'y a pas place à d'autres choses que juste vivre et pouvoir se nourrir et essayer de faire ça le mieux possible.
Salut, je suis Jeanne Serrin et vous écoutez un nouvel épisode de Minute Papillon. Aujourd'hui, on va parler de précarité étudiante. Des témoignages comme celui de Mila, on en entend tous les mois. Ça a commencé pendant le confinement, mais maintenant avec l'inflation, il y a des centaines et des centaines d'étudiants qui font tous les jours la queue dans les files de distribution d'aide alimentaire. L'alimentation, c'est un des secteurs les plus touchés par la crise. On note plus de 12% d'augmentation des prix de l'alimentation. Sauf que la nourriture, c'est une des dépenses principales des étudiants. Donc résultat, aujourd'hui, plus d'un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim. Pour leur venir en aide, des initiatives naissent partout en France. Et l'une d'elles, ce sont les Agorae. Les Agorae, ce sont des épiceries solidaires qui sont gérées par l'Association Générale des étudiants de Paris, l'AGEP. Il en existe deux dans la capitale, bientôt trois. C'est là-bas que j'ai rencontré Mila. Le principe du magasin, c'est que les produits sont tous vendus à prix cassé ou sont même parfois gratuits. Et sur place, il y a du choix.
On a la partie féculents après.
Lina Abra est présidente de l'AGEP.
Pâtes, riz et semoule qu'on vend comme le reste de notre épicerie à moins 90% du prix du marché. Donc ça revient environ à une quinzaine de centimes le paquet.
Les pâtes aussi c'est bon, la sauce aussi c'est bon.
Dans ces épiceries, les étudiants s'en sortent toujours avec un panier de courses avantageux. Pour une semaine, ils en ont pour 3 à 7 euros maximum.
Les épices aussi c'est bon, l'épice aussi, il me reste que les deux vinaigres. Non c'est bon, tout est bon pour moi.
Du coup, t'en as eu pour combien pour des courses d'une semaine ?
3,86 €.
Et ça va tenir combien de temps ?
J'espère une semaine, deux semaines.
Lina est toujours étudiante à Paris. Elle est boursière, c'est-à-dire qu'elle touche une aide financière de l'État. Mais même avant la crise, cette aide ne lui suffisait pas.
Du coup, la première année d'études supérieures, j'étais échelon 2. Je touchais environ 250 euros. C'était un revenu qui m'allait car je vivais encore chez mes parents. Sur 250 euros, après, il ne reste plus beaucoup, plus grand-chose. Surtout s'il faut payer la mutuelle, le pass Navigo, le téléphone. Je m'accordais une dizaine, une quinzaine d'euros par semaine de courses. Maintenant, du coup, que j'ai des revenus un peu plus hauts, enfin, tranquille, je suis environ une vingtaine d'euros par semaine, en sachant que les dépenses alimentaires, je compte aussi les sorties. Si je vais faire un resto à 15 euros, je me dis que je vais tenir sur les courses de la semaine dernière et je vais racheter que 5 euros, par exemple, de courses.
Et puis, les choses se sont envenimées lorsqu'elle a commencé à habiter seule à Paris.
J'ai dû trouver un job étudiant, un peu comme tout le monde. Pendant un un an, j'ai dû enchaîner en fait un jour un rythme de 7 jours sur 7 parce que j'avais cours du lundi au vendredi, puis ensuite le samedi, dimanche, je travaillais. Ça a été une très mauvaise décision. J'étais vraiment épuisée. Puis après, il y a eu une période assez difficile où ma mère a été hospitalisée. Donc déjà que c'était difficile pour moi de recevoir une bourse en fonction du revenu de mes parents qui m'aidaient pas financièrement. En plus, là, les revenus de ma mère étaient moindres. Elle avait besoin de soutien financier de ma part. Et quand j'ai voulu aller voir le CROUS pour leur dire « j'aimerais bien maintenir au moins mon échelon », on m'a orientée vers une procédure qui n'a abouti à rien. On m'a dit qu'en fait, même avec les réductions du salaire de ma mère, ça changeait pas mon échelon.
Des problèmes avec sa bourse, Lina est loin d'être la seule étudiante à en avoir. D'abord, tout le monde n'est pas éligible aux bourses. On estime aujourd'hui qu'un tiers des étudiants en bénéficient. Ce qui laisse beaucoup de personnes sans aide, notamment celles qui ne reçoivent pas d'argent de la part de leurs parents. Le second problème, c'est justement de savoir comment est calculé le montant de la bourse. Aujourd'hui, ça dépend de la situation financière des parents. Mais ce type de calcul, il exclut les personnes qui ne dépendent plus d'eux. Enfin, ce qu'on peut dire avec les bourses, c'est que leur montant n'a pas été revu avec l'inflation. Pour beaucoup d'étudiants, elles ne suffisent plus. Prenons par exemple l'échelon le plus bas des bourses, le 0 bis. C'est un étudiant sur trois qui touche cet échelon et qui a le droit à une aide de 100 euros, ce qui couvre tout juste les frais de transport pour ceux qui habitent à Paris. Donc, au vu de ces problèmes, les associations et les syndicats étudiants réclament depuis longtemps une réforme du système des bourses. Récemment, le gouvernement a annoncé débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros à destination des associations d'aide alimentaire et aussi une revalorisation des bourses à hauteur de 4%. Une solution court-termiste pour les syndicats. Écoutez Éléonore Schmitt, elle est secrétaire nationale de l'organisation étudiante L'Alternative.
Nous, on organise des distributions alimentaires, mais en fait, on le fait justement parce que les étudiants sont précaires. Et en fait, du coup, ce n'est pas une solution pérenne quoi, de financer des associations qui sont là, finalement, pour pallier le désengagement de l'État. L'État ne prend pas du tout le problème par le bon côté, ce qui fait que, certes, les associations, du coup, vont peut-être plus avoir de moyens pour faire ces distributions-là, mais ça ne va pas régler du tout le problème de la précarité étudiante. D'autant plus là quand même qu'on s'approche de l'hiver et qu'on sait qu'en hiver, avec les factures énergétiques aussi qui explosent, là on va avoir des vrais problèmes au niveau de la précarité avec des choix entre se chauffer et se nourrir.
Pour elle, la solution doit se faire en deux temps.
Si on regarde les barèmes, ils n'ont pas été revus en fait depuis 10 ans. Si on les indexait sur le SMIC, on verrait qu'on peut faire rentrer tout un tas, vraiment des dizaines de milliers d'étudiants dans le système de bourse. Et aujourd'hui, c'est juste parce qu'il n'a pas été réformé qu'on en est là. Nous, on aurait aimé à minima donc 50% d'étudiants boursés, au moins 10% effectivement de revalorisation des bourses pour compenser l'augmentation des prix de l'alimentation. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment qu'il y ait un investissement massif qui soit fait et de permettre que les étudiants les plus précaires, par exemple l'échelon 7, qu'on demandait qu'ils soient au moins du coup augmentés au niveau du seuil de pauvreté. Et en fait, à terme, en faisant ça, on arrivera justement à la question du revenu étudiant, qui permettrait en fait vraiment de régler ce problème-là de la précarité. Il y a tout un tas de chantiers qui nous attendent, chantiers écologiques, sociaux, économiques, etc. Il faut donner les moyens pour pouvoir accéder aux études supérieures. Et donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on prône ce revenu étudiant.
Alors, comment imaginer une réforme du système de bourse qui soit plus juste et qui intègre ceux qui passent actuellement entre les mailles du filet ? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré l'économiste Guillaume Allègre. Bonjour Guillaume Allègre.
Bonjour.
Guillaume Allègre est économiste à l'OFCE, un laboratoire de recherche en économie de Sciences Po. Je lui ai d'abord demandé son avis sur la linéarisation des bourses pour lutter contre les effets de seuil du système actuel.
Effectivement, la linéarisation, ça peut aider, mais il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut avoir pour objectif de ne plus dépendre du revenu des parents dans cette aide étudiante. Il faut se rapprocher des systèmes scandinaves où les étudiants sont considérés comme autonomes, notamment s'ils ont décohabiter et ont droit à des aides propres qui sont soit des bourses, soit des prêts. Au Danemark, par exemple, les étudiants danois ont des bourses d'études autour de 900 euros pour tous les étudiants ayant décohabité. En Suède, par exemple, qui est un système un petit peu différent, c'est aussi autour de 900 euros, mais c'est un tiers de bourse et deux tiers de prêt. Vous avez 25 ans pour rembourser ce prêt-là. Vous commencez à rembourser quand vous finissez les études.
Mais est-ce que c'est pas pénalisant de
commencé ses études déjà en s'en détant et en faisant après. C'est en tout cas pas du tout ce que le modèle français a imaginé.
Les associations étudiantes françaises ne veulent pas de ce modèle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Suède, il y a une doctrine d'autonomie. Les étudiants ont des cohabités et la plupart demandent ce prêt. Sur 25 ans, emprunter 600 euros par mois pendant 3 ans, ça ne fait pas des remboursements très, très importants. Personnellement, je préfère le système danois où tout est avec des bourses universelles et généreuse et suffisante. Et c'est ce qu'on proposait en partie dans un rapport Terra Nova qui date d'il y a une dizaine d'années, qu'on peut mettre en place des prêts à remboursement contingent. C'est-à-dire que vous allez rembourser le prêt que si vous avez des revenus supérieurs à 1500 ou 2000 euros. Donc les mois où vous avez des revenus supérieurs à ces montants-là, vous remboursez le prêt. Et au bout de 25 ans, si vous n'avez pas tout remboursé, on annule le prêt.
En France, on réfléchit aussi beaucoup sur le revenu étudiant, justement un revenu minimum accordé à tous les étudiants qui serait à hauteur du seuil de pauvreté 1063 euros. En tout cas, c'est ce que les syndicats réclament, c'est ce qui était inscrit dans le programme de la NUPES. Est-ce qu'on est sur cette même logique d'accorder à tous les étudiants un revenu minimum d'autonomie ?
Moi, c'est ce que je défendais dans ce rapport Terra Nova. On a réfléchi et on s'était dit quand même que c'était difficile de proposer un revenu étudiant qui serait supérieur au RSA actuel. Le RSA actuel, on est environ 600 euros sur lequel il faut rajouter les allocations logement. Mais évidemment, quand vous êtes au RSA aujourd'hui, même avec les allocations logement, vous êtes sous le seuil de pauvreté. Alors ça, c'est malheureux. Je pense qu'on devrait probablement l'augmenter pour que RSA plus allocation logement atteigne le seuil de pauvreté. Mais je pense qu'on ne devrait pas donner aux étudiants plus que le RSA.
Et alors, cette réforme des bourses dont on vient de parler, les perspectives qu'on pourrait amener, elle ne sera pas effective avant la rentrée 2023, voire 2024, voire 2025. Mais aujourd'hui, on a une urgence. À court terme, les syndicats demandent aussi d'indexer les bourses, de les revaloriser, de les indexer à l'inflation. Ça, c'est une première demande. Et la seconde, c'est d'intégrer plus de personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ces solutions à court terme ?
Oui, bah, je pense qu'à minima, elles doivent être indexées à l'inflation. Surtout que l'inflation, là, il y a beaucoup dans le budget des étudiants, il y a beaucoup d'alimentaire. Et l'inflation sur l'alimentaire est beaucoup plus élevée que l'inflation moyenne. Donc, je pense que l'indexation sur l'inflation, ça devrait être fait à minima. Et évidemment aussi, comme on disait, mettre plus de gens sur des échelons de bourse plus généreux. Après, je pense aussi que, en ce qui concerne la réforme structurelle, c'est-à-dire d'avoir une allocation d'autonomie qui ne dépendent pas des revenus des parents. Je pense que pour que ce soit effectif, il faut que ce gouvernement n'ait pas comme interlocuteur que des associations qui soient maximalistes, c'est-à-dire qui demandent un revenu de 1000 euros et qui soit un salaire sur lequel les gens paieraient des cotisations. Là, ça poserait problème. Parce que déjà, un salaire, ça ne serait pas très, très juste envers les gens qui commencent à travailler tôt. Et aussi, un revenu supérieur au RSA serait injuste. Donc, ce qu'il faut, c'est que les étudiants, qu'il y ait au moins une forme de solidarité lorsque les étudiants demandent 900 000 euros, il faut que ça soit bourse et RSA. Hein. Et aussi, il me semble qu'il faut que les étudiants soient ouvert sur des formes de prêts. Alors là, je sais que c'est très controversé. Et je pense que les prêts, c'est mieux que travailler. Parce que si les anciens étudiants doivent travailler un petit peu plus tard pour rembourser le prêt, bah, vaut mieux qu'ils travaillent un peu plus tard qu'ils travaillent pendant qu'ils sont étudiants. Et en plus, quand ils travailleront, ils auront des salaires beaucoup plus élevés. Donc c'est une réforme où tout le monde est gagnant, en fait. Il ne faut pas être maximaliste. Il faut aussi rester ouvert à ce type d'argument-là.
Reste donc à savoir quel scénario sera envisagé par le gouvernement. Pour le moment, l'heure est à la concertation. La ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré en novembre dernier que les conclusions seront rendues avant l'été 2023. Mais avant ça, le rendez-vous est donné en début d'année prochaine pour un rapport d'étape. Des annonces pourraient déjà être faites. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
Hold up. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.